Je l'ai appelée en début d'émission, Elsie. Toutes mes excuses, Elsa Lavigne, directrice chez Altergo. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous accueillir en studio. Vous allez parler d'accessibilité aujourd'hui. Accessibilité universelle, paradoxe, utopie ou paradigme, c'est le titre de votre chronique.
Effectivement, donc ça annonce déjà le ton. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'accessibilité universelle, c'est vraiment un concept qui est mis de l'avant par les personnes qui ont une limitation fonctionnelle et les organismes qui les représentent. C'est assez ambitieux dans un sens, puisque ça vient questionner en profondeur la façon dont nos sociétés fonctionnent. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, l'accessibilité universelle, c'est une approche qui vise à favoriser la participation de tous en prenant en compte la diversité des réalités des individus et la diversité des obstacles qu'ils rencontrent. Le but, c'est que tout soit accessible pour tous, partout et tout le temps.
Vaste programme. Est-ce que c'est possible?
Bonne question. Donc, oui et non. Pour comprendre l'accessibilité universelle et pour savoir si c'est atteignable, on doit mieux comprendre les différentes réalités des personnes et les types d'obstacles, qu'ils rencontrent dans l'environnement. Quand on parle d'environnement, notamment, on doit considérer ces différentes facettes. On peut le diviser en quatre sphères, grosso modo, donc l'environnement physique, l'environnement socioculturel, l'environnement politique et l'environnement économique. Tout d'abord, l'environnement physique, c'est ce qu'on peut toucher, donc qui peut être naturel, bâti ou aménagé, un édifice ou un parc par exemple, mais c'est aussi l'environnement technologique, donc un équipement comme un appareil photo. C'est ce à quoi on va penser instinctivement quand on pense aux obstacles à l'accessibilité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est visible, on peut le toucher, une marche d'escalier est un obstacle très visible, très tangible. Mais on pense surtout aux obstacles physiques parce que pour la plupart des gens, une personne en situation de handicap, c'est une personne qui a une limitation physique et particulièrement quelqu'un qui utilise un fauteuil roulant. Pour cette partie de la population, c'est vrai que les obstacles à la participation sont surtout, mais pas exclusivement, d'ordre physique. Des escaliers, une porte trop étroite qui ne s'ouvre pas automatiquement, un trottoir en pente, etc. Ce sont autant d'obstacles qu'on peut observer. Mais on voit aussi l'environnement socioculturel. Donc ça, c'est un peu moins tangible. C'est tout ce qui touche aux structures sociales et à la culture. Ça inclut les rapports sociaux, les normes, les conventions, la vision et la représentation de la réalité par les groupes sociaux. Concrètement, l'environnement socioculturel, c'est ce qui influence nos perceptions et nos comportements à l'égard des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Ça vient définir ce qui est normal, anormal, beau, laid, acceptable ou non acceptable. Dans une société où le handicap est invisibilisé, où il n'y a pas ou très peu de modèles médiatisés de personnes qui ont une limitation fonctionnelle et où on est constamment exposé à des modèles de beauté stéréotypés, le handicap est considéré un peu comme un problème, une tare, et on a tendance à considérer les personnes sous l'angle de leurs incapacités plutôt que sous l'angle de leur potentiel. Ça influence donc la place que la société accorde aux individus et aussi la place qu'ils s'accordent eux-mêmes, parce que cet environnement socioculturel a aussi un impact majeur sur la façon dont les personnes se considèrent elles-mêmes et a un effet notable sur l'estime de soi, le sentiment de compétence ou encore le sentiment d'appartenance.
Genre de cercle vicieux. Et pour ce qui est de l'environnement politique?
Alors l'environnement politique, on pense le comprendre, ce sont les politiques publiques, les lois, les règlements, les systèmes, le droit, les traités internationaux, etc. Concrètement, c'est l'ensemble des règles qui viennent définir ce qui est autorisé ou non, ce qui est obligatoire ou non, et ce qui vient déterminer les possibilités. Un règlement peut être un obstacle s'il ne prend pas en compte l'éventail des réalités auxquelles il s'applique. Par exemple, certains règlements d'urbanisme vont limiter les modifications qu'on peut faire à la façade d'un bâtiment. Ça peut limiter par défaut les possibilités de le rendre accessible par la modification de ses portes ou de ses fenêtres ou par l'installation d'une plateforme élévatrice ou d'une rampe d'accès. Par contre, d'autres lois ou règlements peuvent être des facilitants. Par exemple, s'ils obligent les entreprises à rendre accessibles leurs produits ou leurs installations à tous. Le dernier, non le moindre, c'est l'environnement économique. Donc c'est le prix des biens et services, le revenu, la distribution de la richesse, etc. On est dans une société capitaliste, donc forcément l'accent est mis sur le profit et la productivité. La force de travail des individus est considérée comme une marchandise, une matière première pour le profit, et malgré les différents filets sociaux mis en place par les gouvernements, une personne non ou moins productive d'un point de vue économique, que ce soit en raison de situation du handicap, mais aussi d'un enjeu de santé ou autre, aura plus de difficultés à accéder au marché du travail. Elle aura plus de difficultés à subvenir à ses besoins, sa capacité d'action sera limitée par des revenus qui sont moindres, et elle subira une forme de stigmatisation qui est liée à son statut économique. D'ailleurs, et c'est là qu'on rejoint l'environnement socioculturel, la perception des employeurs à l'égard des incapacités et des compétences des personnes qui ont une limitation constitue également un obstacle à l'intégration au marché de l'emploi. Donc, quand on parle d'accessibilité, il faut vraiment considérer tous ces environnements, mais aussi des éléments comme l'accessibilité temporelle, la proximité, l'accessibilité de l'information, de la programmation, etc.
Donc, c'est quand même très complexe de rendre l'environnement accessible à tous.
Oui, c'est effectivement très complexe parce qu'il faut considérer vraiment un ensemble d'éléments qui sont tangibles et intangibles. Et dans nos sociétés occidentales, ces différents environnements ont été façonnés par la majorité, entre guillemets, ou disons plutôt par le groupe dominant, pour répondre à ses propres besoins. Donc, grosso modo, pour caricaturer, ces environnements ont été façonnés par l'homme blanc, hétérosexuel, sans handicap. Donc, c'est aujourd'hui très complexe de déconstruire tout ça et de changer de paradigme. Parce que ces environnements sont adaptés aujourd'hui à l'humain moyen, l'humain standard, mais cet humain standard n'existe pas. Et les conséquences de cette façon de voir l'environnement sont visibles partout. Parce que la réalité des individus est très vaste. Leur histoire, leur expérience de vie, leur capacité, leur vision du monde ne sont pas monolithiques. Quand on parle de limitation fonctionnelle, par exemple, le sujet qui nous préoccupe, on parle également d'un vaste éventail de réalités, puisqu'on englobe autant les limitations physiques, qu'elles soient motrices, visuelles ou auditives, que la neurodiversité, donc la déficience intellectuelle, les troubles du spectre de l'autisme, mais aussi des troubles de langage-parole ou des troubles de santé mentale. Donc une personne qui utilise une canne blanche pour se déplacer, par exemple, ne rencontrera pas du tout les mêmes obstacles qu'une personne qui a un trouble anxieux généralisé. Certaines personnes vont rencontrer des obstacles dans les interactions sociales, moins dans les aménagements physiques. D'autres auront plus de difficultés à avoir accès à l'information, alors que certains auront des enjeux plus pour comprendre cette même information. Donc, quand on comprend, en fait, cette diversité de réalité, c'est là que la question de l'universalité vient se poser.
Justement, l'universalité, Elsa, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc oui, l'universalité, donc un grand mot. Donc, si on regarde la définition de ce qui est universel, ça veut dire qu'il s'étend ou s'applique à la totalité des objets, des personnes ou des choses qui existent. Les émotions, par exemple, sont universelles. On ressent tous la peur. Les besoins des individus sont universels aussi, qu'ils soient physiologiques, besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime, sont universels. Donc, en gros, on a tous les mêmes besoins, mais on va utiliser des moyens et des outils qui sont différents pour les satisfaire. Pour ajouter à cette complexité-là, on a chacun des personnalités, des préférences, des intérêts qui vont aussi jouer sur les moyens qu'on utilise pour répondre à nos besoins. Moi, par exemple, je suis très curieuse, donc je vais satisfaire mon besoin d'accomplissement en développant mes connaissances sur des sujets divers et variés, mais d'autres le feront en participant à des compétitions sportives ou en faisant de la musique.
Donc, si on résume, on est tous différents, on a tous des objectifs et des préférences différentes, mais on a tous les mêmes besoins. On utilise donc des moyens différents pour satisfaire nos besoins et on rencontre des obstacles différents en fonction des moyens qu'on utilise et des environnements dans lesquels on évolue. Alors, en comprenant cela, l'accessibilité universelle me semble un petit peu une utopie.
On peut le voir comme ça, c'est là qu'on voit un peu le paradoxe de l'accessibilité universelle, parce que si on se dit que l'accessibilité, c'est de concevoir la même solution pour répondre aux besoins de tous, ça peut sembler utopique. Parce que c'est contradictoire de penser qu'une solution est universelle, puisque l'humain standard n'existe pas. Donc, si on regarde la définition maintenant plus théorique de l'accessibilité universelle, on définit ça comme le caractère d'un produit, d'un procédé, d'un service, d'une information ou d'un environnement qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. On vient ajouter 4 autres concepts à notre réflexion pour nous mélanger un petit peu plus. Donc l'équité, l'inclusion, l'autonomie et l'équivalence du résultat. Commençons par l'équité. Donc, on peut souvent confondre avec l'égalité, mais ce sont deux choses différentes. Pour caricaturer, être égal, c'est donner la même chose à tout le monde. Être équitable, c'est donner à quelque chose, donner à chacun quelque chose qui lui convient. Si on prend un exemple concret, 2 étudiants passent un examen à l'université. L'un d'eux a un trouble du spectre de l'autisme et un trouble du déficit de l'attention, donc il a de la difficulté à se concentrer dans une salle d'examen avec d'autres étudiants. Si je leur offre le même environnement pour passer l'examen, c'est égalitaire, mais ce n'est pas équitable parce que cet environnement est plus favorable à l'un qu'à l'autre. Dans ce cas-là, je peux offrir à l'étudiant qui n'est pas en mesure de se concentrer de passer son examen dans une autre salle. Je ne leur offre pas la même chose, mais je suis équitable puisque je leur permets d'arriver au même résultat. L'équivalence du résultat, justement, on vient d'en parler, c'est que ça ne veut pas dire faire exactement la même chose. Par exemple, si je veux m'initier à la littérature québécoise, je peux emprunter un livre en format poche, mais quelqu'un qui a une perte de vision pourra emprunter ce livre en gros caractères. Quelqu'un pourra l'emprunter via le bibliocourrier et le retrouver chez lui dans sa boîte postale. Et quelqu'un d'autre pourra le commander en version audio. Donc, on n'utilise pas le même outil. On va utiliser un service, des supports, des technologies différentes, mais on va arriver à un résultat équivalent. L'inclusion, je ne passerai pas là-dessus, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et l'autonomie, c'est de ne pas avoir d'aide pour accomplir ce que l'on veut faire.
Donc, l'accessibilité universelle, ce n'est pas nécessairement d'avoir une solution qui correspond à tous, mais un éventail de solutions qui permettent à chacun d'avoir accès.
Exactement. C'est pour ça que moi, je considère l'accessibilité universelle plutôt comme un processus, une manière de voir les choses. Viser l'accessibilité universelle, c'est changer de paradigme et réfléchir en termes de diversité des réalités, des usages et des moyens de participer. Viser l'accessibilité, c'est aller au-delà de l'adaptation et de l'accommodement et concevoir des solutions diverses et variées pour répondre nativement aux réalités de tous. Dans certains cas, il va effectivement y avoir des solutions uniques qui répondent à tout le monde. Par exemple, une entrée de plain pied avec une porte automatique et un détecteur de mouvement répond aux besoins de pas mal tout le monde. Dans d'autres contextes, le compromis le plus efficace n'est pas nécessairement une solution universelle, comme l'exemple de la bibliothèque, par exemple. Donc, pour conclure, viser l'accessibilité universelle, ça permet d'améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, mais il faut s'autoriser à questionner les systèmes dans lesquels on vit. Et comme ce sont les systèmes qui nous ont façonnés, comme individus, c'est la partie la plus difficile.
Wow! Quelle chronique éclairante! Un grand merci, Elsa Lavigne, directrice générale Altergo. Et puis, vous êtes la bienvenue n'importe quand.
Merci.